Condorcet, vie de Monsieur Turgot, fichier 4. Il ne craignait pas de consulter des savants parce qu'il ne craignait pas la vérité. Les reproches qu'on leur fait de mépriser les connaissances pratiques, d'être jaloux des inventions dans les arts, de tenir aux opinions adoptées dans leur compagnie, n'était à ses yeux éclairé par l'étude et l'expérience que les récriminations du charlatanisme, indigné qu'une classe d'hommes osât échapper à ses prestiges. Mais il savait en même temps que les savants, accoutumés à une marche régulière et sûre, portent quelquefois à l'excès l'esprit de doute et d'incertitude. Que, quand on les consulte, il faut vouloir et savoir les entendre, afin de ne pas prendre leur incertitude pour une condamnation, ou, ce qui est plus dangereux encore, pour une véritable approbation. Une science étrangère peut aider aux connaissances personnelles, mais elle n'y supplée jamais. Et il n'existe point de moyen pour bien juger d'après autrui ce qu'on ne pourrait juger par soi-même. Le droit d'établir sur les grandes routes des voitures publiques était en France l'objet d'une foule de petits privilèges particuliers, concédés ou affirmés par le gouvernement. On y avait joint presque partout le droit exclusif de voitirer les paquets au-dessous de 50 livres. M. Turgot aurait désiré pouvoir détruire ces privilèges, mais il aurait fallu sacrifier un revenu nécessaire. Et il était à craindre que l'établissement de voitures publiques sans privilèges ne se fît qu'avec lenteur, dans un pays où l'habitude d'en obtenir et celle de n'avoir presque jamais vu de commerce libre fait exagérer la crainte de la concurrence. Ainsi, la réunion de tous ces privilèges à une règle dépendante du gouvernement semblait une première opération nécessaire et d'autant plus utile que le ministère, en conservant le privilège exclusif, pouvait l'exercer avec douceur et supprimer du moins les vexations qui en étaient la suite. Le nouveau plan, qui procurait plus de célérité dans la marche des voitures, en multipliant le nombre, en diminuant les prix, utile ou commode aux particuliers, il offrait des avantages réels au commerce. Et cependant, il apportait quelque augmentation au trésor public. Mais M. Turgot avait porté plus loin ses vues. Les banquiers et une partie des financiers ne sont utiles que pour éviter les frais et les lenteurs du transport réel de l'argent. En diminuant ces frais, en accélérant les transports, on diminue nécessairement les frais de banque. On resserre la limite qu'ils ne peuvent passer. Le gouvernement, maître de voiturer en peu de temps et presque sans frais, de l'argent d'un bout du royaume à l'autre, pouvait ou diminuer le nombre de ses agents ou restreindre leurs profits. En sorte que ce nouvel établissement, la régie des transports par voiture, l'affranchissait de la dépendance la plus dangereuse à laquelle il soit soumis dans nos nations modernes, celle de ses employés de finance et celle des banquiers. Comme cette opération utile ôtait des privilèges à quelques familles, on cria que le ministre attaquait les propriétés. Mais loin qu'un privilège puisse être une propriété, loin que le gouvernement perde en donnant un privilège le droit imprescriptible de changer la forme de sa concession et d'y substituer une indemnité, aucune puissance législative, celle même qui exercée par le peuple encore semblerait avoir une autorité plus étendue, ne peut prétendre au droit de faire une loi irrévocable, de former avec quelques-uns des membres de l'État une convention qu'elle ne puisse jamais rompre. Et si même il s'agit de privilèges exclusifs, si la concession exige le sacrifice d'une partie de la liberté naturelle des citoyens, comme la nécessité seule peut autoriser à exiger ce sacrifice, l'État conserve le droit d'en dispenser à l'instant où cette nécessité cesse, où le sacrifice, loin d'être utile, devient nuisible. Et il ne peut devoir au particulier que l'équivalent du privilège dont la justice ne permet plus de les laisser jouir. Sans doute, l'État doit garder avec fidélité les engagements de ce genre et ne les rompre ni par légèreté, ni pour un faible profit. Et ce n'est pas là un devoir absolu et soumis au principe d'une justice rigoureuse. Il doit être subordonné au devoir plus essentiel, plus sacré, de conserver aux citoyens le libre exercice de leurs droits. Et c'est à la conscience de celui qui gouverne qu'il appartient de prononcer, dans chaque question particulière, sur ce que la justice et l'intérêt public exigent de lui. L'établissement de la caisse d'escompte eut en partie les mêmes motifs que celui de la régie des messageries. Une caisse publique qui escomptait à 4% les lettres de change devait nécessairement faire tomber au même denier le taux commun de l'escompte. Les billets qu'elle faisait entrer dans ses paiements, billets qu'on pouvait refuser et qu'elle réalisait, à la première demande, offraient un autre avantage, celui de l'établissement d'un papier-monnaie. 10 millions prêtés au gouvernement et remboursables en 13 ans sur le pied d'un million par an auraient formé une hypothèque qui, dans les premiers temps, pouvait être nécessaire pour établir la confiance. M. Turgot connaissait toute l'utilité et tous les dangers des papiers de cette espèce, l'importance de resserrer l'usage dans les limites de la somme nécessaire aux besoins du commerce, la difficulté de leur faire obtenir la confiance dans une monarchie et de s'opposer aux manœuvres sourdes qu'on tente pour l'ébranler. Toujours constant dans ses principes, il n'avait pas voulu que l'arrêt d'établissement de cette caisse renferma un privilège exclusif. Elle ne différait des autres banques que par la publicité de ses opérations et la forme régulière que cette publicité permettait de leur donner. Il n'eut pas le temps d'achever l'exécution de ce plan, suivi depuis par son successeur, mais avec des changements. Aussi, quelques-uns des abus que M. Turgot avait prévus et qu'il voulait prévenir s'y sont-ils introduits. Cependant, et rien ne prouve davantage l'utilité de cette caisse telle qu'il l'avait conçue, la confiance a résisté, et aux vices de l'établissement, et aux manœuvres que des intérêts de tous les genres ont employés pour en abuser ou pour la détruire. M. Turgot regardait l'encouragement des sciences et des arts comme un des devoirs de sa place. Mais il n'oubliait pas que ces encouragements, pris sur le trésor public, payés par la nation, doivent être proportionnés à l'utilité qu'elle en retire. Il savait qu'ils doivent aider, soutenir les talents et non les enrichir. La richesse peut être le prix du travail, la gloire seule est celui du talent. Il ne voulait pas que les encouragements donnés aux arts par un motif d'utilité publique gênasse la liberté des citoyens et étouffasse l'industrie et l'émulation. Ainsi, jamais il n'accordait de privilèges exclusifs. Une gratification, une pension, l'achat d'un certain nombre de machines inventées et dont la distribution était encore un bienfait du gouvernement. Telles étaient les récompenses qu'il se proposait de donner. Point de ces médailles, point de ces honneurs subalternes avec lesquels la charlatanerie cherche à payer la vanité. Il voulait encourager et non pas corrompre, et croyait que dans toutes ses opérations, l'homme d'État doit avoir pour but de réformer les hommes et non d'exalter leurs vices, eût-il même l'espérance d'en faire un usage utile. M. Turgot avait formé le plan de substituer un seul impôt direct à cette foule d'impôts indirects de toute espèce, fléau de l'industrie et du commerce, source première de la misère et de l'avilissement du peuple. Mais en attendant qu'il pût commencer à réaliser un plan dont l'exécution ne peut paraître aisée ou impossible qu'à des esprits inattentifs et à des hommes peu éclairés, en attendant que l'État pût remettre au peuple une partie des contributions, quelques opérations plus pressantes ou plus faciles ne devaient pas être négligées. On sait combien, en France, le commerce est gêné par ses droits de péage, de marché, reste de l'anarchie féodale, qui, désigné par une foule de noms barbares, détourne le commerce de ses routes naturelles, augmente le prix des denrées, produisent la surabondance dans un canton et la cherté dans le canton voisin. En 1771, on avait établi sur ces droits, qu'on aurait dû chercher à supprimer, une addition de 8 sous pour livre qui se levait au profit du roi. Cet impôt fut remis au peuple. Des droits établis sur les entrées de Paris étaient régis par la ville qui les avait abonnés et se contentait de lever une somme suffisante pour payer le prix de son abonnement. Mais une compagnie les avait affermés vers la fin du dernier règne. Sa jouissance commençait en 1775, et le peuple fut étonné d'éprouver une charge nouvelle sous une administration bienfaisante et populaire. Les cris des citoyens avertirent M. Turgot, alors attaqué de la goutte, et au milieu de ses douleurs, il s'occupa de réparer le désordre par la destruction de cette compagnie qui fut indemnisée. Les droits sur les ventes, sur les baux, sur les échanges, sur les actes passés entre les citoyens ont, sur l'agriculture et le bonheur public, une influence lente et funeste. Ces droits, en arrêtant le mouvement des propriétés, tendent à en empêcher la division ou l'amélioration. Ils ont introduit des formalités coûteuses. On cherche à les éviter et la sûreté des propriétés en est ébranlée. La levée en est compliquée. Souvent mêlée d'arbitraire, elle engendre des procès ruineux et des exactions contre lesquelles il en coûte trop pour demander une justice incertaine. M. Turgot, ne pouvant abolir ses droits devenus une partie nécessaire du revenu public, détruisit du moins ceux qui, presque sans produit réel, n'avaient pas même une utilité fiscale. Une régie des hypothèques venait d'être établie à des conditions dont la singularité faisait à un ministre juste un devoir de rompre cet engagement. Ce devoir fut rempli, et une nouvelle compagnie chargée de la même régie à des conditions qui n'étaient plus onéreuses. Les biens réels des domaines du roi avait été affermé pour 30 ans, et l'on avait compris dans le bail le droit de rentrer dans les terres vagues ou regardées comme telles, et usurpées ou cultivées par des particuliers, et celui de retirer les domaines aliénés ou le droit équivalent d'en faire racheter la conservation par les possesseurs. Si les conditions de ce bail étaient désavantageuses pour le gouvernement, elles étaient plus effrayantes encore pour les citoyens. Quelque légitimes que fussent les droits du prince sur ses domaines aliénés, sur ses terres usurpées, l'exercice de ce droit ne devait être confié qu'à ses mains paternelles, ne devait être dirigé que par des vues d'une utilité générale. Ce bail fut cassé et remplacé par une régie qui était plus avantageuse au fisc et dont les citoyens n'avaient pas à craindre l'avidité, du moins sous un ministère juste ou éclairé. Le privilège de la fabrication de la poudre et de la vente du salpêtre était affermé à une compagnie. Ce qu'elle rendait au roi était devenu presque nul par une suite de petites concessions exigées sous différents prétextes. Successivement, on avait accordé aux salpêtriers le droit de forcer les propriétaires à leur laisser enlever le salpêtre attachés aux murs de leurs étables, de leurs écuries. Puis, le droit d'exiger des communautés un logement pour eux, un atelier pour leurs opérations. Dans quelques pays même, on y avait ajouté le privilège de prendre à vil prix, dans les forêts des particuliers ou des communautés, le bois qu'ils jugeaient nécessaire à leurs travaux. Aussi, par une suite infaillible de cette législation, les particuliers, les communautés, s'empressaient de se racheter des vexations que les salpêtriers avaient droit d'exercer et leurs tournées étaient beaucoup moins employées à ramasser ou fabriquer du salpêtre qu'à recueillir le fruit de la crainte qu'ils inspiraient. L'art des nitrières artificielles était resté dans l'enfance, tandis que chez nos voisins il avait fait des progrès rapides. Et le seul avantage qui pouvait servir de prétexte à l'établissement d'un privilège, celui d'assurer à l'État, indépendamment du commerce étranger, la poudre nécessaire à sa défense, avait été perdu par les moyens qu'on avait cru propres à l'obtenir. Ce bail fut encore cassé. Une régie en prit la place, se chargea du remboursement des fermiers, augmenta le prix du salpêtre pour les salpêtriers sans l'augmenter pour le public, détruisit pour une époque prévue et fixée à l'instant de son établissement toutes les vexations contraires à la liberté du peuple et à la propriété des particuliers. L'art de construire des nitrières artificielles s'établit en France. La récolte du salpêtre augmenta avec une rapidité singulière et, en peu de temps, 1 million de revenus de plus et des vexations de moins furent la suite de cette opération et du soin qu'eut M. Turgot de placer dans la régie un chimiste éclairé et d'encourager les physiciens, par l'établissement d'un prix, à s'occuper de recherches sur la nature et la production du salpêtre. Les droits sur les boissons sont en France une partie considérable du revenu public. Plusieurs autres denrées sous forme liquide sont assujetties à des impositions et la méthode de jauger les vaisseaux est devenue importante pour l'administration comme pour le peuple. Kepler, dont la découverte des lois du mouvement des planètes a immortalisé le génie, s'était occupé de cette question et l'avait conduit à quelques découvertes géométriques. Mais dans la pratique, on se contente encore en France d'une méthode grossière, sujette à des erreurs importantes pour le commerce et, ce qui est bien plus fâcheux, dépendante d'évaluations arbitraires. On prévoit bien qu'en général, cet arbitraire doit servir à étendre les droits. Et comme le particulier qui se plaint ne peut trouver la lésion qu'en faisant mesurer immédiatement la liqueur contenue dans le tonneau, on sent qu'il ne doit jamais recourir à ce moyen qui l'expose à perdre une partie de sa denrée et presque toujours à la détériorer. On proposait une méthode approuvée par l'Académie des sciences, très simple dans la pratique, exacte dans les résultats, susceptible en cas de plainte d'une vérification précise. Elle n'avait qu'un défaut, celui de donner une contenance un peu au-dessus de la contenance réelle. Mais en même temps, tout arbitraire était proscrit. M. Turcot voulut établir cette méthode, et il éprouva les plus grandes réclamations de la part de ceux dont cette innovation augmentait les profits légitimes. Cette raison seule suffisait pour juger de la justice de ces réclamations. Cependant, elles trouvèrent des protecteurs. On fit des expériences pour juger de la vérité d'une proposition géométriquement démontrée. On savait qu'elle confirmerait la démonstration, mais elle devait faire perdre du temps, et par là, on parvint à empêcher M. Turgot de détruire un abus de plus. Ceux qui prétendent que si les vérités importantes de l'économie politique, découvertes ou éclaircies de nos jours, ne sont point admises par le plus grand nombre, c'est faute d'avoir été établies sur des preuves assez convaincantes, doivent apprendre par cet exemple que les démonstrations géométriques elles-mêmes peuvent éprouver des objections lorsqu'on les juge sans les entendre et qu'on a intérêt de les combattre. Par des édits déjà dressés et prêts à être promulgués, les impôts sur la marque des fers et sur les cuirs, moins onéreux au commerce, dont le dernier avait presque anéanti les tanneries en France, devaient être bientôt transformés en un droit d'une forme plus simple, ou même en une imposition territoriale. Des réformes plus difficiles et non moins importantes étaient réservées à un autre temps. Dans une administration de finances très compliquée, il s'élève une foule de procès entre le fisc et les contribuables. procès où ceux-ci ont nécessairement un double désavantage. D'abord, ils ne peuvent entendre les lois d'après lesquelles les contestations doivent être jugées. Aucun objet n'est réglé par une seule loi, mais par une suite de lois successives, de décisions particulières, regardées comme l'interprétation ou le supplément de la loi. Toutes ces lois se modifient, se contredisent et deviennent inintelligibles à force d'avoir été expliquées par les interprétations successives. Les frais nécessaires pour obtenir justice empêchent les contribuables de réclamer, toutes les fois que l'objet de la lésion n'est pas fort au-delà de ces frais, tandis que ces mêmes frais sont nuls pour les agents du fisc, surtout si on les compare aux profits immenses qu'ils retirent de ces extensions données à leurs droits. Mais ce n'était pas assez, et on avait établi comme un principe de finance que dans les questions douteuses, il fallait toujours interpréter la loi en faveur du droit. Et, comme par la complication des lois, presque tous les cas étaient douteux, le gain d'un procès contre le fisc était un phénomène rare. Si les contribuables obtenaient quelquefois justice auprès d'un intendant, les financiers, fonctionnaires des finances, en appelaient au ministre. Et la nécessité de faire quelques frais de plus était tout l'avantage que les citoyens retiraient de l'équité de ces magistrats. M. Turgot adopta un principe contraire. Il sentit que la justice exigeait de condamner le fisc dans les cas douteux, et même dans ceux où il opposait un jugement particulier, une loi secrète et surprise, aux lois générales et publiques. Il abolit le privilège injuste qu'avaient obtenu les financiers de suspendre par un appel la restitution des droits indûment perçus, lorsque cette restitution était ordonnée par le premier juge, privilège qui rendait la justice absolument nulle pour quiconque n'avait ni argent ni protecteur. Aussi, un financier disait-il assez plaisamment que M. Turgot était un ennemi mortel de la recette. Cependant, cet esprit de justice et d'humanité, loin de nuire à la recette, ne fit que l'augmenter, malgré la suppression de quelques impôts et la diminution du taux de plusieurs autres. Et, comme cette augmentation ne pouvait avoir d'autre cause que celle de la circulation, du commerce, de la consommation, on voit combien cet esprit de modération et de justice avait dû faire de bien au peuple. Dans une nation où la dette publique est très grande et où une masse considérable d'effets aux porteurs payables sur le trésor public circule dans le commerce, le crédit du gouvernement a nécessairement une grande influence sur le crédit général. Sans le crédit du gouvernement, celui de tous les hommes qui traitent avec le trésor royal est précaire, et celui de presque tous les autres devient suspect. La circulation de ces effets cesse d'être un secours pour le commerce. Le taux ou l'intérêt qu'ils produisent est porté par la baisse de leur valeur. Celui des emprunts du gouvernement, celui des prêts faits à ceux qui traitent avec lui, ne peut que faire hausser l'intérêt commun de l'argent, augmentation fatale à l'industrie et au commerce. Enfin, toutes les opérations d'un gouvernement sans crédit deviennent ruineuses et incertaines. Si, au contraire, la confiance se rétablit, si les nouveaux emprunts peuvent être faits à un intérêt plus bas, la réforme des abus, le rétablissement de l'ordre, le remboursement des dettes onéreuses, la destruction des traités injustes pour la nation, oppressifs pour le peuple, tout devient facile. M. Turgot sentait l'importance de relever le crédit presque anéanti, mais il n'en connaissait qu'un seul moyen, l'exactitude dans les paiements, la fidélité dans les engagements, l'esprit de justice dans les lois générales. Les pensions étaient retardées de 3 années. M. Turgot en fit payer 2 à la fois de toutes celles qui n'excédaient point 400 livres, c'est-à-dire de toutes celles qui, nécessaires à la subsistance, ont été accordés comme une juste récompense. ou sont du moins de véritables aumônes. Pendant son ministère, elles ont été remises au courant, tandis que le paiement de toutes les autres et celui des arrérages des rentes dues aux créanciers de l'État furent également accélérés. Par une suite de la liquidation ordonnée en 1764, plusieurs citoyens avaient perdu leurs créances par leur négligence ou par la difficulté d'entendre et de remplir les formes compliquées qu'on leur avait prescrites. M. Turgot les rétablit dans leurs droits, simplifia les formes exigées et donna 6 mois pour les remplir. Il vit en même temps que les frais, les formalités nécessaires, rendaient presque nulle la jouissance des rentes d'une très petite valeur, et il ordonna le remboursement de celles qui étaient au-dessous de 12 livres. 10 millions de lettres de change, dues pour des avances faites à nos colonies, étaient exigibles depuis 5 ans, et le paiement en était suspendu. M. Turgot en paya d'abord pour 1 500 000 livres, assura 1 million de fonds par an pour le paiement du reste et offrit des contrats à 4% à ceux des possesseurs qui les préféreraient. Tandis que d'un côté, M. Turgot diminuait la dette exigible et faisait des remboursements utiles aux citoyens pauvres, de l'autre, il diminuait les anticipations, autre source de la chute du crédit public. Il se rétablit promptement. Les effets se rapprochèrent de leur taux naturel. Quelques-uns furent au pair. M. Turgot autorisa les États des provinces, les corps, à emprunter à 4% afin de rembourser les capitaux dont ils payaient un intérêt plus haut. Mais il exigea en même temps de tous les corps de n'emprunter qu'en assurant des fonds pour un remboursement successif, précaution nécessaire pour maintenir leur crédit. Les emprunts particuliers, les fonds avancés au trésor royal ou fournis dans les entreprises de finance, se négociaient à un intérêt déjà moindre, et il était sûr de le voir baisser encore. Enfin, il s'était assuré en Hollande d'un emprunt de 60 millions à moins de 5%. Cet emprunt eût été dans nos finances un phénomène extraordinaire, que sa retraite empêcha d'avoir lieu. Et le premier emprunt qu'il a suivi, quoique beaucoup moins considérable, fut au-delà de 6 1/4, malgré l'appât encore séduisant, quoiqu'un peu usé d'une petite loterie. On avait multiplié les charges de finances dans l'unique vue de se procurer par la première vente une ressource momentanée. Presque tous les offices étaient doubles. Les caisses également multipliées avaient chacune des trésoriers et des contrôleurs. M. Turgot se proposa de réunir sur une seule tête les charges doubles, de faire rembourser celles qui s'éteignaient par celui qui conservait l'autre, et de supprimer les gages, le salaire, de la charge dont le possesseur, réunissant les droits d'exercice attachés à 2 places, se trouvait suffisamment dédommagé. Cette opération avait été exécutée pour les recettes des tailles. Une autre opération sur celle des impositions de Paris a produit également une diminution de frais inutiles. D'autres réformes étaient également préparées et les fonds de l'emprunt que M. Turgot se proposait de faire, en facilitant des remboursements considérables, eussent été la source d'une plus grande économie. Alors, un emprunt à 4%, toujours ouvert, et auquel une combinaison qui eût facilité le commerce de ces contrats et en eût assuré le remboursement aurait mérité la confiance publique, devait donner les moyens d'éteindre toutes les dettes au-dessus de ce taux, de diminuer de plus d'un quart l'intérêt de la dette publique, d'établir enfin, par la suppression totale des charges de finances, une comptabilité simple et peu coûteuse. Telles avaient été les opérations, telles étaient les vues de M. Turgot. Et c'est ainsi qu'on l'accusait de ne pas connaître la finance, apparemment pour se consoler de la supériorité qu'on était forcé de reconnaître en lui dans les grandes parties de l'administration. Il avait augmenté le revenu public sans mettre un nouvel impôt, et après en avoir supprimé ou diminué plusieurs. Et que, sans recourir à de nouveaux emprunts, il avait fait des remboursements, diminué la dette exigible, accéléré les paiements et réduit les anticipations. Tous ces travaux avaient été l'ouvrage de 20 mois et 2 attaques de goutte, maladie héréditaire dans la famille de M. Turgot, l'avaient empêché pendant plusieurs mois de s'occuper de la combinaison ou de l'exécution de ses plans. Le travail forcé auquel son zèle pour le bien public le faisait se livrer au péril de sa vie avait prolongé ses attaques et les avait rendues dangereuses. 2 événements extraordinaires s'étaient encore opposés à son activité. Une maladie pestilentielle s'était répandue sur les bestiaux dans la Guyenne et dans les provinces voisines, où les terres sont labourées avec des bœufs. Très peu évitaient la contagion et il était rare d'échapper à la mort. Le mal exigeait des secours efficaces, dirigés d'après un plan suivi. M. Turgot apprit par les hommes les plus éclairés qu'il n'y avait ni remède connu, ni préservatif assuré. Et dès lors, il sentit qu'il ne fallait songer qu'à empêcher la communication et la durée du mal. Un cordon de troupes investit les provinces attaquées. Des médecins habiles, surtout M. Vic d'Azyr, jeune encore, dont M. Turgot avait senti le mérite et dont la réputation justifie aujourd'hui le choix du ministre, furent chargés de présider à l'exécution du plan proposé. Partout où l'on n'était pas sûr d'arrêter la communication du mal, il y eut ordre de tuer même les bêtes saines. Le roi payait un tiers du prix. Cette exécution était rigoureuse, mais il était prouvé que les propriétaires des ânes y gagnaient beaucoup, puisque le nombre de ceux qui évitaient la maladie ou qui y résistaient était bien loin d'approcher dans les cantons infectés du tiers de la totalité. Des précautions sévères et fondées sur les meilleures observations furent employées pour désinfecter les étables et détruire les derniers levains de la contagion. En même temps, on tentait des expériences pour essayer de connaître ou des remèdes ou un préservatif. On prenait des précautions pour assurer aux propriétaires la vente des cuirs ou des chairs des bestiaux sains, sans s'exposer aux inconvénients qu'aurait entraîné la vente d'animaux déjà attaqués ou suspects de contagion. On accordait des encouragements à ceux qui porteraient dans ces provinces des chevaux auxquels, heureusement, la maladie ne se communiquait pas. Le gouvernement en achetait et les distribuait aux citoyens les moins riches. Jamais l'autorité publique n'avait opposé à un plus grand mal plus d'activité, un plan de précaution mieux combiné, des secours plus étendus et mieux dirigés. M. Turgot sentit alors l'utilité d'une société de médecine permanente, essentiellement chargée de porter des secours au peuple dans les épizooties comme dans les épidémies, d'éclairer l'administration dans les circonstances où les opérations politiques peuvent influer sur la santé et sur la vie des hommes, dans toutes celles où la conservation des citoyens a besoin des secours, de la vigilance, de l'autorité du gouvernement. Cette même société devait être occupée de l'étude de la médecine et surtout des moyens d'en faire une véritable science, ou plutôt un art, dirigé par une physique saine et appuyé sur des principes donnés par l'observation. Mais en formant cet établissement, qui ne reçut une dernière sanction qu'après la démission de M. Turgot, ce ministre avait été fidèle à ses principes. Quoique bien convaincu que cette société aurait une utilité durable, il ne voulait donner à son institution aucune de ces formes qui font subsister les établissements longtemps après qu'ils sont devenus inutiles, qui perpétuent les erreurs qu'a pu commettre le fondateur dans le moment de leur formation, qui empêchent de détruire les vices que le temps amène à sa suite et de faire les corrections que le changement des opinions et le progrès des Lumières peuvent rendre indispensables. Ainsi, dans cet établissement, le seul qui l'eût projeté, il se conformait rigoureusement aux vérités que 20 ans auparavant, il avait exposées dans l'article Fondation. Exemple remarquable de cette unité de principe, de cette correspondance rigoureuse entre ses opinions et sa conduite, qui a fait un des principaux traits de son caractère et dont aucun homme d'État n'avait encore donné l'exemple. À peine le danger des épizooties avait-il cessé, à peine le ministre qui, au milieu des douleurs de la goutte, avait passé plusieurs nuits à composer des règlements ou des instructions détaillées pour guider ceux qui étaient chargés de l'exécution de son plan, avait-il repris ses forces, qu'il eut, de nouveau, besoin de toute son activité et de tout son courage. Il n'avait accordé la liberté au commerce des grains que dans l'intérieur du royaume, et il était difficile de supposer que cette liberté pût amener la disette. On n'avait même pas osé le dire clairement. Mais il fallait un prétexte pour attaquer le ministre, et cette loi le fournit. L'année avait été mauvaise. Le peuple était accoutumé, dans les moments de disette, à se livrer à des excès contre les marchands de blé, que le gouvernement avait eu souvent la faiblesse de lui abandonner. Et il s'était élevé dans une ou deux villes de Bourgogne des émeutes qu'un peu de fermeté avait bientôt dissipées. Mais un orage plus grand se préparait du côté de la capitale. Quelques livres faits pour avertir les gens du monde qu'effrayait la vertu du ministre de diriger leur clameur contre cette partie de son administration furent répandus avec profusion. Lui et les hommes qui partageaient ses principes y étaient peints comme des gens occupés de chimères systématiques, voulant gouverner du fond de leur cabinet, d'après des principes spéculatifs et sacrifiant le peuple à des expériences qu'ils voulaient faire pour prouver la vérité de leur système. Bientôt après, des brigands, criant qu'ils manquaient de pain et payant avec de l'or le blé qu'ils forçaient de leur donner à vil prix et qu'ils revendaient ensuite, ameutant le peuple avec de faux arrêts du conseil imprimé, traînant après eux la populace des villes, pillèrent successivement les marchés le long de la basse Seine et de l'Oise. Ils entrèrent dans Paris, dévastèrent quelques boutiques de boulangers, essayèrent de soulever le peuple et ne firent que l'effrayer. Ils parurent à Versailles et ils n'eurent que la gloire de faire peur à quelques courtisans. M. Turgot vit, dans les circonstances de cette émeute, un plan d'affamer Paris. L'argent, l'or même que les pillards avaient avec eux, cette méthode de détruire les comestibles en assurant qu'on mourait de faim, de s'arroger le droit de taxer la denrée, tout lui annonçait un système suivi de rébellion et de pillage. Tout lui prouvait la nécessité d'opposer au mal des remèdes capables de l'arrêter, de sauver la capitale et peut-être la France. Tous les pouvoirs semblaient suspendus. Lui seul agissait. La vertu et le génie avaient obtenu, dans ce moment de crise, tout cet ascendant qu'ils prennent nécessairement lorsqu'ils peuvent déployer toute leur énergie. Des troupes furent répandues le long de la Seine, de l'Oise, de la Marne et de l'Aisne. Partout, elles prévinrent les pillards ou les dispersèrent. Le désordre finit aux frontières de l'Île-de-France et de la Picardie. Le lieutenant de police de Paris et le commandant du guet, dont la conduite avait annoncé une faiblesse et une inaction que les circonstances pouvaient rendre funestes, furent déplacés. Le Parlement de Paris, troublé, avait rendu un arrêt qui, en défendant les attroupements, arrêtait que le roi serait supplié de faire baisser le prix du pain. Cet arrêt est affiché le jour même de l'émeute à l'entrée de la nuit. Il pouvait la renouveler dès le lendemain et la rendre dangereuse. Monsieur Turgot court la nuit à Versailles, réveille le roi et les ministres, propose son plan, le fait agréer. Les affiches de l'arrêt sont couvertes par des placards qui défendent, au nom du roi, les attroupements sous peine de mort. Le Parlement, mandé le matin à Versailles, apprend dans un lit de justice que le roi casse son arrêt, attribue au prévôt des maréchaussées le jugement des séditieux et veut bien excuser sur les circonstances une démarche dont les suites auraient pu être fatales. Dès ce moment, tout fut tranquille. Les séditieux dispersés, presque toujours prévenus, bientôt réprimés, disparurent promptement. Un petit nombre de victimes furent immolées à la tranquillité publique. Le peuple vit, pour la première fois, le gouvernement, inaccessible à toute crainte, suivre constamment ses principes, veiller à la conservation des subsistances, à la sûreté des commerçants, déployer toute son activité, toutes ses forces contre le désordre. Prodiguer des secours, mais refuser aux préjugés, aux opinions populaires, tout sacrifice contraire à la justice. Et bientôt, la confiance reprit la place de l'inquiétude et des murmures. Un mois après, le roi traversa pour aller à Reims une partie du théâtre de ses séditions et il n'y trouva qu'un peuple qui bénissait son gouvernement. On avait voulu le forcer à sacrifier son ministre à la crainte des émeutes populaires et ce mot, répété avec transport par la nation attendrie, « Il n'y a que M. Turgot et moi qui aimions le peuple » fut la récompense du ministre et la punition de ses ennemis. La conduite personnelle de M. Turgot avait été conforme à ses principes. Il avait écarté de son département tous les seconds qu'une opinion trop générale pour être absolument fausse lui avait montré comme indigne de sa confiance. Il avait détruit un commerce de grains fait au nom du gouvernement et par cette seule raison, justement odieux au peuple. En entrant dans sa place, il en avait diminué les appointements d'un quart et n'avait rien demandé pour les frais de son établissement. Sous son ministère, les parts dans les affaires sans avoir fourni de fonds, les pensions sur les places furent sévèrement proscrites. Plusieurs dons extorqués des villes, furent restitués. Les députés d'une ville, en lui rendant compte de leur administration, lui parlèrent de droits aliénés autrefois pour un prix que l'augmentation de ces droits avait rendu beaucoup au-dessous de la valeur actuelle. Le ministre leur dit qu'il fallait rembourser. « Mais monsieur, une partie de ces droits vous appartient ? » ?»«
Ce n'est qu'une raison de plus. »
Un négociant, par une de ces adulations usées dont les ministres commencent à ne plus être flattés, lui proposa de donner son nom à un vaisseau destiné à la traite des nègres. M. Turgot rejeta cette offre avec l'indignation d'une âme vertueuse qui n'a pu être familiarisée avec l'idée d'un crime par l'habitude de le voir commettre. Et il ne craignit point par ce refus d'annoncer publiquement son opinion au risque de soulever contre lui tous ceux qui croient l'intérêt de leur fortune lié avec la conservation de cet infâme trafic. Tous les hommes qui cultivaient les sciences, les lettres, les arts, qui avaient des talents et en faisaient un usage utile, étaient traités avec distinction. On était sûr d'être écouté, d'être accueilli, pourvu qu'on eût à lui dire quelque chose qui pût contribuer au bonheur public. Il ne se bornait pas à proposer au roi les lois qu'il jugeait les meilleures, à permettre, autant qu'il était en lui, la libre discussion des objets d'administration ou de finances. Il donna l'exemple utile de rendre au public un compte détaillé et raisonné des principes d'après lesquels les lois étaient rédigées et des motifs qui en avaient déterminé les dispositions. Le préambule de l'arrêt qui rend la liberté au commerce des grains celui des édits qui abolissent les corvées, détruisent les jurandes, révoquent les privilèges qui gênaient le commerce des vins, sont des chefs-d'œuvre dans un genre pour lequel il n'y avait pas de modèle. L'âme simple et grande de M. Turgot, dominée par un sentiment profond d'amour du peuple, de zèle pour la justice, et presque inaccessible à toute autre passion, prit aisément le ton noble et paternel qui convient à un monarque exposant aux yeux de sa nation ce qu'il croit devoir faire pour son bonheur. Ce n'est point cette majesté sévère des empereurs, donnant des lois à l'univers au nom d'un peuple conquérant. C'est la dignité modeste d'un père qui rend compte à ses enfants des desseins qu'il a formés pour eux, éclaire leur raison sur les motifs de l'obéissance qu'il en exige, et semble moins occupé de leur commander que de les consoler et de les instruire. On sent combien toute louange que le souverain aurait l'air de se donner serait peu décente et pour lui-même et pour le ministre qui se louerait sous le nom du prince. On sent combien serait déplacée toute prétention à l'esprit, aux beautés du style, à de grandes idées. Plus un homme est élevé ou par son rang, ou par sa puissance, ou par son génie, plus ses petites faiblesses de l'orgueil le rabaissent ou l'avilissent. On sent qu'il s'agit d'éclairer le peuple, et non de lui plaire en flattant ses opinions, ses préjugés, ou ce désir vague d'un état meilleur qui lui fait embrasser tant de chimères. Si une telle politique peut être permise à un ministre qui veut conserver sa place, elle ne peut jamais être celle d'un roi, et ce serait trahir à la fois le prince et les sujets que de l'employer en parlant en son nom. Cet usage, consacré par l'exemple de M. Turgot, exige sans doute dans un ministre ou de grands talents ou un grand caractère. Mais c'est aussi un des moyens les plus sûrs pour faire naître, dans une monarchie, cet esprit public, ce goût de s'occuper des affaires nationales. Avantage qu'on a cru être exclusivement réservé aux constitutions républicaines et qui est un des plus grands qu'elles puissent avoir. M. Turgot n'était pas tellement absorbé par les travaux immenses de sa place qu'il n'eut encore des moments à donner à des objets qui lui paraissaient importants pour le bien public. Lorsqu'il fut question du sacre du roi, il proposa de faire à Paris cette cérémonie. Il y voyait l'avantage d'une grande économie et l'avantage non moins grand de détruire le préjugé qui destine la ville de Reims. Il fait employer une huile regardée comme miraculeuse, d'après une fable rejetée par tous les critiques. Il y ajoute l'opinion fausse d'une vertu non moins fabuleuse et peut contribuer à faire regarder comme nécessaire une cérémonie qui n'ajoute rien aux droits du monarque. Dans un temps paisible, ces préjugés ne sont que puérils. Dans un temps de trouble, ils peuvent avoir des conséquences terribles. Et la prudence exige qu'on choisisse pour les attaquer le moment où ils ne sont pas encore dangereux. M. Turgot proposait en même temps de changer la formule du serment du sacre. Il trouvait que, dans celle qui est en usage, le roi promettait trop à son clergé et trop peu à la nation, qu'il y jurait d'exterminer les hérétiques, serment qu'il ne pourrait tenir sans commettre le crime de violer les lois de la conscience, les lois de la raison et celles de l'humanité. Serment que Louis XIII et Louis XIV avaient été obligés d'éluder en publiant dans une déclaration qu'ils n'entendaient point y comprendre les protestants, c'est-à-dire les seuls hérétiques qui fussent dans leurs états. M. Turgot croyait qu'une promesse publique et solennelle ne pouvait pas être une vaine cérémonie et que lorsqu'un roi qui n'a rien au-dessus de lui sur la terre prenait à la face du ciel un engagement avec les hommes, il ne devait jurer de remplir que des devoirs réels et importants. Ces idées ne furent point exécutées.
mais M. Turgot se crut obligé de faire un mémoire où il expliquait au roi ses principes sur la tolérance et où il prouvait qu'un souverain, convaincu que la seule religion qu'il professe est la seule véritable, doit laisser la liberté absolue de la croyance et du culte à ceux de ses sujets qui en professent une autre, qu'il est obligé à cette tolérance par des devoirs de conscience, par une obligation rigoureuse de justice fondée sur le droit naturel, par l'humanité, enfin par politique. M. Turgot n'a terminé que la première partie de ce mémoire, et c'est la plus importante, parce que c'est la seule sur laquelle tous les hommes de bonne foi qui ont quelque lumière aient pu conserver des doutes. Il prouve que plus un prince croit à sa religion, plus il doit sentir combien il serait injuste et tyrannique de la lui ôter. Et plus aussi, il doit juger qu'il commettrait la même injustice s'il troublait la conscience de ceux qui, avec une égale bonne foi, sont également persuadés d'une religion contraire. Il prouve que toutes les religions ayant été adoptées ou rejetées par des hommes honnêtes et instruits qui en avaient fait un examen scrupuleux, on peut les croire par l'effet d'une persuasion intime. Mais qu'il serait absurde de supposer qu'elles fussent appuyées sur des preuves que la mauvaise foi seule peut faire rejeter. Que dès lors, la persécution, même en faveur de la vérité, cesse d'être légitime, parce que l'erreur involontaire n'est pas un crime, et que le consentement donné à la vérité qu'on ne croit pas est une action coupable. Qu'ainsi, en violant les droits de la conscience, on s'expose à faire commettre un crime, et dès lors que soi-même on en commet un, que cette persuasion personnelle ne peut pas être une raison de troubler la conscience des autres, parce qu'elle n'est pas pour eux une raison de croire, que plus on croit la religion importante essentielle au bonheur éternel, plus l'on doit respecter dans autrui le secret de la conscience, et qu'ainsi, l'on ne peut être intolérant sans inconséquence, à moins qu'on ne regarde les religions comme des établissements politiques destinés à tromper les hommes pour les mieux gouverner. Telles avaient été les opérations, les travaux, les vues, la conduite de M. Turgot, lorsque le roi lui demanda sa démission, qu'il n'eut pas donnée, parce qu'il n'était ni dans son âme, ni dans son génie, de croire jamais le bien impossible.